franceinter.com.
Décision du 5 mars 1940. Confié au NKVD, le cas de 25 700 prisonniers de guerre à examiner selon la procédure spéciale avec application à ceux-ci de la peine capitale par fusillade. Joseph Staline. Mille ans d'histoire. Il y a 70 ans, en mars 1940, la police politique de l'URSS, le NKVD, recevait de Staline l'ordre d'éliminer plus de 25 000 officiers polonais qui avaient été faits prisonniers quand l'armée rouge avait envahi la Pologne en septembre 1939. Staline venait alors de signer avec Hitler un pacte par lequel les deux pays s'étaient mis d'accord pour se partager la première victime de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, pendant 3 ans, en dehors des plus hauts responsables soviétiques, personne n'a su ce qu'étaient devenus ces prisonniers polonais. Jusqu'à ce qu'en avril 1943, après l'invasion de l'URSS par les Allemands, ceux-ci retrouvent le corps de plusieurs milliers d'entre eux, enterrés dans un charnier à quelques kilomètres de Smolensk. C'était le 13 avril 1943, dans la forêt de Katyn, la découverte d'un des plus grands crimes de guerre du XXe siècle.
C'est ici, près de Smolensk, dans cette clairière de la forêt de Katyn, que l'on a découvert les corps de 10 000 officiers prisonniers de l'armée polonaise assassinés par les soviets. Près d'un millier de corps ont déjà été exhumés. Tous ont été exécutés de la même façon, un coup de revolver dans la nuque. On remarque les mains liées.
Nous sommes actuellement dans une tombe ouverte, une odeur absolument effroyable. Règne, on distingue les officiers polonais massacrés. Leurs uniformes sont restés à peu près intacts.
Le cadavre d'un officier polonais.
Les mains ligotées. La tête est presque détachée du corps. Un des hommes vient de sortir un portefeuille. Il trouve quelques papiers, mais absolument illisibles. L'officier allemand fait apparaître le passage de la balle meurtrière qui a exécuté l'officier polonais.
On nous en a examiné les boutons de l'uniforme où se distingue l'aigle polonais.
Alexandra Viato, bonjour.
Bonjour.
C'était un reportage de Radio Paris qui, pour une fois, exceptionnellement, ne mentait pas. La découverte en 1943 d'un massacre auquel vous avez consacré un livre, publié chez André Versailles Éditeur, Katyn, l'histoire de l'élimination de plusieurs milliers d'officiers polonais, faits prisonniers par les soviétiques en 1939 et exécutés sur ordre de Staline il y a 70 ans en Biélorussie. Alors si le sous-titre de votre livre c'est Katyn, la vérité sur un crime de guerre, c'est que la vérité a mis longtemps avant d'être connue et reconnue par les soviétiques en 1990, 50 ans après les faits. Ce qui prouve que l'histoire peut difficilement s'écrire à chaud, Alexandra Viato.
Tout à fait. Et il y a là deux batailles pour la vérité. D'abord, pour l'attribution aux soviétiques du crime de Katyn, d'ailleurs de Katyn, Kharkov et Tver, puisqu'il y avait plusieurs,
il y avait
trois charniers au moins, de ces officiers polonais, mais aussi sur la qualification de crime de guerre. Car pendant tout le temps du régime communiste, il était la censure ordonnée, on le voit par écrit, ordonnée de ne jamais mentionner prisonniers de guerre concernant ces officiers. Ils étaient internés selon la censure. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il fallait accréditer la thèse d'un simple assassinat, mais non d'un crime de guerre
alors,
caractérisé.
C'est également très tard, c'est en 1992 qu'on a rendu public l'ordre de Staline, dont j'ai lu un tout petit extrait au début, le 5 mars 1940, qui dit « il faut tuer ces gens-là hein, par fusillade ». On ne l'a su que tard. Pourquoi, il faut peut-être tout de suite, avant qu'on revienne sur les faits, expliquer pour quelles raisons ce sont des officiers polonais qu'il fallait éliminer.
Tout à fait. Tout d'abord parce que c'est les cadres d'une armée. D'une armée qui n'est pas victime. L'armée polonaise combat pendant un mois entier, alors que c'est regrettable, mais c'est ainsi, son allié la France et la Grande-Bretagne ne viennent pas honorer leur engagement à combattre les Allemands. Et les Allemands en sont très surpris, parce que pendant un certain temps, ils gardent des troupes à l'ouest, mais quand ils s'aperçoivent que ni Français ni Anglais ne vont bouger, ils mettent toutes leurs troupes contre la Pologne, qui combat malgré cela pendant un mois. Et donc, Staline connaît très bien la puissance et la capacité des officiers polonais, puisqu'ils l'ont vaincu. L'armée polonaise, c'est la seule armée au monde qui a vaincu les soviétiques en 1920. Donc, il faut détruire. Et puis, on retrouve un autre document qui est aussi important que celui que vous venez de citer. C'est l'ordre de bataille numéro 1 du 14-15 septembre 1939, deux jours avant l'agression soviétique, où Staline donne l'ordre à l'armée rouge de frapper les armées polonaises et empêcher leur retour à l'ouest pour poursuivre la bataille contre la Wehrmacht. Et donc, il s'agit de, je cite toujours, détruire et capturer les forces armées polonaises opérant à l'est de la frontière lituanienne, et ceci pour soulager l'allié à l'époque de Staline, c'est-à-dire Hitler.
Dans votre livre, vous invoquez une autre raison. Pourquoi des officiers? Parce que c'était dégradé, c'était des gens qui exerçaient dans le civil, parce qu'ils étaient recrutés pendant la guerre, mais dans le civil, qui exerçaient des professions importantes, d'ingénieurs, de professions libérales, de médecins, etc. Et c'était, aux yeux des soviétiques, des ennemis de classe, hein, appartenant, comme d'ailleurs l'étaient aux yeux de Staline, tous les officiers de toutes les armées, sauf bien sûr l'armée rouge, qui était soupçonnée d'être hostile au communisme et à l'Union soviétique. Donc on élimine des adversaires de classe.
Et d'une part, mais pas n'importe quels adversaires de classe, parce qu'il y avait aussi des paysans et des ouvriers polonais qui étaient entièrement anti-soviétiques. Mais là, il s'agit de l'élite. Les élites, et ceci fait partie des protocoles secrets du pacte germano-soviétique, du pacte Ribbentrop-Molotov, c'est-à-dire détruire, éliminer les élites des pays baltes, d'ailleurs, comme de la Pologne.
Pacte germano-soviétique, en vertu duquel, donc, en septembre 1939, lorsque, deux semaines après l'offensive allemande en Pologne, l'Union soviétique en faisait autant en envahissant la partie orientale du pays.
Toute la population civile de Varsovie s'est mise à la disposition du gouvernement militaire pour participer à la défense de la ville. Les troupes qui partent n'ont qu'un seul mot d'ordre, se battre jusqu'à la dernière cartouche. La Pologne souriait à l'avenir lorsqu'elle fut brusquement envahie par des armées allemandes d'une écrasante supériorité numérique. Et au moment où elle était parvenue à constituer un front de défense, les armées russes envahissent à leur tour son territoire.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est un discours de notre président.
Citoyens, jusqu'aujourd'hui, la nation a fait face au plus gros des troupes allemandes. Notre voisin de l'Est a envahi nos territoires et a violé les accords en vigueur et les règles morales.
Vous savez où sont les officiers polonais ?
Les prisonniers de guerre. Ils ont tous été emmenés à la gare. Les soviets doivent les transporter jusqu'en Russie. Ils partent demain matin très tôt.
Adam Tadeusz Franciszkowicz, 1893.
Et l'on entend un extrait du film Katyn d'Andrzej Wajda, qui commence par l'invasion de la Pologne par l'armée rouge en septembre 1939, en vertu justement de ce pacte. On oublie souvent qu'au tout début de la guerre, eh bien, l'URSS et l'Allemagne ne se font pas la guerre. Elle interviendra entre eux plus d'un an plus tard, mais ils sont complices au moins du partage de la Pologne que prévoyait le pacte germano-soviétique, un pacte insensé quand on pense qu'il s'agit d'un pacte signé entre Staline et Hitler et le nazisme.
Absolument. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'on découvre dans les archives, enfin on a découvert quand elles n'étaient pas fermées, mais heureusement elles ont été communiquées à temps, et qu'en fait il ne s'agissait pas du tout, les raisons d'un pacte comme ça momentané pour retarder l'attaque allemande. Non, pas du tout. Depuis le début de l'année 1939, les Allemands et les Soviétiques s'étaient entendus pour envahir ensemble cette partie de l'Europe orientale, centrale et orientale. Et donc, cette division est prévue dans les pactes, dans le pacte Ribbentrop-Molotov, que je signale d'ailleurs que l'Union soviétique n'a reconnu que le 9 juin 1989, quand il était devenu impossible de le nier. Les Lituaniens et les Polonais avaient fait un travail remarquable et avaient découvert la vérité.
La clause secrète, parce que le pacte était connu, mais la clause prévoyant le partage de la Pologne était ignorée.
Et surtout ce caractère de combat commun, d'alliance absolue, devant s'étendre contre l'Angleterre et contre la France.
Alors, submergé par ces deux armées, l'armée rouge et la Wehrmacht allemande, bien sûr, l'armée polonaise est battue. Elle est faite, tous les survivants sont faits prisonniers et on envoie vers l'Est, vers l'URSS, donc, ces fameux officiers qui étaient extrêmement nombreux, plus de 25 000 qui sont envoyés donc en Russie. On n'a aucune espèce de nouvelle, d'autant plus il y a une chose qu'on oublie, qui est également une conséquence, c'est que leur propre famille ont été déportées également en Sibérie et au Kazakhstan, Alexandra Viato.
Tout à fait. Cela est encore un autre ordre de Staline et sur une proposition de Beria, c'est qu'il faut déporter toutes les familles de ces officiers pour qu'elles ne demandent pas de nouvelles et que surtout toutes ces familles élitaires soient détruites, mais également, et ça figure dans les archives que Gorbatchev a déjà données en 90, très partielles mais très intéressantes, il y a une communication entre Moscou et les NKVD locaux qui demandent est-ce qu'il faut déporter aussi les frères, les sœurs, les parents, etc. Et la réponse toujours oui. Et ce qui va aboutir à 1 700 000 déportés polonais civils dont la majorité vont mourir.
Tandis qu'on n'a aucune espèce de nouvelle de ces fameux officiers qui ont été capturés en septembre 1939. En mars, on l'a entendu, Staline donne l'ordre de les exécuter, tout simplement de les éliminer. Un ordre qui est immédiatement exécuté. Et c'est ainsi qu'en avril et en mai, ces officiers sont envoyés vers une destination qui était dans les camps de prisonniers, sont envoyés vers des destinations inconnues, certains écrivant jusqu'au dernier moment ce qu'ils voyaient dans des carnets qu'on a retrouvés plus tard sur leurs cadavres.
10 avril 1940.
4h45, ils nous ont réveillés. Nous allons quitter nos wagons-cellules. On continue la route en camion. Arrivé à Niezdovo, à 402 km de Moscou. Trois fourgons nous attendent. 5h du matin, nous quittons la gare dans un fourgon. Nous faisons route à travers une forêt. Qu'allons-nous devenir ?
Документы генерала.
Забрать. Следующий.
Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive.
Et l'orchestre symphonique de la radio-télévision polonaise chantant une œuvre de Nancy van de Waat, composée en 1988 en l'honneur des victimes de Katyn, qui ont tous été exécutés de la même manière. Ce qu'on a retrouvé plus tard indique que tous ont reçu une balle dans la nuque. On tuait tous les jours, a dit un des bourreaux de ces officiers, même le 1er mai,
disait-il scandaleux. Absolument, 250 par jour. Tous les jours, pendant un mois, même le 1er mai. C'est terrible. Bon. Et il ajoute lui aussi que finalement, devant l'ampleur du travail, Moscou, je le cite, Moscou livra une pelleteuse mécanique. C'est celle qu'on voit dans le film de Vaïda. Non, c'est effrayant.
Je rappelle que Vaïda lui-même est le fils d'une des victimes.
Alors, c'est là que je voudrais apporter une précision. Vaïda est le fils d'un officier mort à Kharkov. Et Katyn est devenu, un peu comme Auschwitz, le terme générique de tout le crime de guerre et contre l'humanité commis par Moscou. Et donc,
il y avait d'autres charniers.
Il y avait d'autres charniers et des petites modifications dans la manière de tuer. Vaida a réuni dans son film, bien sûr, la manière dont ça se passait à Catigne.
C'est d'ailleurs avec
les mains liées dans le dos, avec du fil de fer barbelé, ouais. Avec cette, enfin, c'est affreux. Je le décris malheureusement, enfin, je le décris dans mon livre en détail. Mais ces exécutions dans les caves avaient lieu également à Kharkov et à Tver, Kalinine à l'époque. Et justement, l'un de ces témoins témoigne de l'horreur, c'est que une fois le travail accompli, on leur donnait des zakouskis, on faisait entrer les officiers dans la cave, et il y avait là Blochine, le bourreau, qui portait un tablier en cuir de boucher, etc. Donc il y avait des petites variantes. Quand on a refait des exhumations à Katyn après l'aveu soviétique, on a découvert d'autres tombes où les gens, et notamment l'aumônier militaire, étaient atrocement mutilés. Donc il y avait parfois une sorte de sadisme. Mais d'autre part, je tiens à le dire, et certains officiers polonais ont résisté, se sont défendus et ont même réussi à tuer quelques NKVDistes parmi les bourreaux.
Alors, au début, le seul charnier que l'on ait découvert, c'est le charnier de Katyn, qui a été découvert longtemps après que ce crime se soit produit, puisqu'il a été découvert 3 ans après, en 1943, le 13 avril 1943. La situation avait changé. L'URSS n'était plus l'allié de l'Allemagne, mais elle en était devenue l'ennemi. Et les Allemands avaient donc envahi l'URSS lorsqu'ils découvraient donc le charnier de Katyn le 13 avril 1943.
Aux confins de l'Europe de l'Est, le Dniepr traverse des terres ravagées par la guerre. La paix semble à nouveau régner sur la campagne, mais cette terre recèle bien des atrocités. Ici, plus de 12 000 officiers polonais rendirent le dernier soupir. Dans plusieurs fosses de 16 mètres sur 20, on a découvert des corps entassés par douzaines. En quelques coups de pelle, on déterre les bottes des soldats morts entassés comme des ballots. Puis les corps atrocement déformés apparaissent. Ici est étendu le général Smorawinski. Là, des membres du service de santé. Là-bas, un aumônier militaire et des centaines d'officiers. L'autopsie a démontré qu'ils avaient été tués d'une balle dans la nuque. Ici, 12 000 officiers polonais furent assassinés par la GPU au cours du printemps 1940. Ils furent enterrés dans la forêt de Katyn pour que ce crime abominable soit dissimulé au reste de l'Europe.
Et c'était en 1943, la radio de Berlin annonçant la découverte du charnier de Katyn, une découverte exploitée bien entendu par la propagande de Goebbels, par la propagande allemande, Alexandra Viato.
Tout à fait.
Qui s'efforce de faire savoir ça dans le monde entier.
La propagande allemande veut surtout diviser les alliés. Diviser les alliés, puisque en février, on a vu la grande défaite de Stalingrad.
C'est juste après.
Les choses commencent à se présenter assez mal pour les Allemands. Ce n'est pas encore tragique, mais ce n'est déjà plus l'impetus allemand d'avant. Et donc, il faut rentabiliser cette découverte qui a eu lieu et qui a été déjà signalé par des cheminots un an avant. Mais bon, là, on exploite la chose à fond. C'est paradoxal parce que pour une fois, propagande il y a, mais
elle se fonde sur des faits réels.
Elle se fonde sur des faits réels. Alors, et donc elle joue sur du velours.
Tenter de diviser, les Allemands n'y parviennent pas. Et c'est là que, franchement, il y a quelque chose qui est absolument effarant quand on vous lit Alexandra Viato. C'est là, ce qui est choquant, c'est que Churchill, qui savait par la Croix-Rouge polonaise ce qui s'était passé à Katyn, Churchill ne dit rien, il informe Roosevelt qui lui non plus ne dit rien, il faut ménager bien entendu l'allié soviétique, donc on ne parle pas. Et il y a même cette directive du bureau de propagande politique britannique qui dit « Notre tâche est d'aider à faire que l'histoire enregistre l'incident de la forêt de Katyn comme une tentative sans importance des Allemands pour retarder leur défaite à l'aide de méthodes politiques ».
Absolument. Là, force est de constater que le cynisme de nos alliés occidentaux est effarant. Effarant.
En même temps, c'est terrible à dire, mais c'est vrai qu'ils tiennent à l'Alliance soviétique.
Non, je comprends, d'ailleurs je l'écris dans mon livre, que jusqu'en 1945, à la limite, on pouvait le comprendre s'ils avaient d'ailleurs empêché la rupture par Moscou de ses relations diplomatiques avec le gouvernement légal polonais. Mais après 1945, notamment à Nuremberg, là, il n'y a aucune justification.
Cela dit, à l'époque, ils font semblant de ne rien voir, ils ne disent rien, pas plus qu'ils ne démentent les soviétiques, lorsqu'à leur tour, ils donnent, les soviétiques, leur version des faits en arrivant à Katyn en septembre 1943.
La forêt de Katyn, située à 15 km de Smolensk. Pendant l'automne 1941, sur ordre direct de Berlin, les Allemands fusillèrent quelques 11 000 officiers polonais prisonniers de guerre. Début 1943, les provocateurs nazis tentèrent d'accuser de ces méfaits des unités soviétiques, espérant semer la discorde entre Russes et Polonais et camoufler leurs crimes.
Убийство выстрелом в затылок. Излюбленный метод гестаповских убийц.
Tuer d'une balle dans la nuque, c'est la méthode préférée des tueurs de la Gestapo. C'est ainsi qu'ils ont tué les prisonniers polonais. L'enquête menée par la commission spéciale, s'appuyant sur les éléments de l'expertise médico-légale, a permis d'établir clairement que le massacre des prisonniers de guerre polonais avait été commis par les agresseurs fascistes pendant l'automne 1941. Le sanglant mystère de la forêt de Katyn est définitivement élucidé.
Et oui, on vient de l'entendre dans cet archive soviétique de 1943, fin 43. Eh bien, pour eux, ce sont les Allemands qui sont responsables. Et d'ailleurs, pour ça, Alexandre Aviato, il falsifie la date. C'est-à-dire que Katyn s'est passé en 1940, quand la Biélorussie était encore en URSS, et les Soviétiques disent que c'était en 1941 quand les Allemands les ont envahis. Donc c'est eux les coupables.
Hein. Le mensonge soviétique est tellement hallucinant que là, quand on ouvre par contre les archives britanniques et américaines, les Britanniques et les Américains sont absolument subjugués par le culot. Ouais. Le culot.
Mais ils disent rien.
Ils disent toujours rien. Mais bah oui, on retrouve dans les archives britanniques ce mot disant que ce serait quand même très gênant parce qu'on s'apprête à juger ensemble avec les soviétiques les criminels de guerre allemands. Et ce serait gênant aujourd'hui de reconnaître que les soviétiques sont coupables du même type de crime que les Allemands.
Alors à l'époque, les soviétiques sont les alliés. Ils ne le sont plus quand se déclenche la guerre froide. Et à ce moment-là, Truman, nouveau président des États-Unis, envoie une commission d'enquête, demande une commission d'enquête, justement, d'enquêter sur Katyn. Là, c'est plus pareil. Et évidemment, une commission d'enquête dont les travaux sont accablants pour les soviétiques.
Alors, réalité, bon, Truman est tout à fait différent. Surtout, Truman est en bonne santé et il n'a absolument pas la faiblesse qui tient probablement à la maladie de Roosevelt. Roosevelt était complètement fasciné et sous la botte de Staline. Et donc, Truman, honteux, réunit une commission, mais là vous dites qu'il envoie chercher les deux, enfin, qu'il charge une commission.
En fait, il
a tous les documents sous la main, ceux du renseignement américain, du renseignement britannique, du renseignement polonais, y compris d'ailleurs du renseignement soviétique qu'il capte. Ils savaient depuis 40 et ils n'ont rien dit.
Alors cela dit, maintenant c'est la guerre froide, mais il faut attendre la fin de la guerre froide pour que les soviétiques eux-mêmes reconnaissent ce crime, c'est-à-dire beaucoup plus tard, en 1990, donc 50 ans après les faits, France Inter, Henri Charpentier, le 13 avril 1990.
50 ans après, Moscou reconnaît sa culpabilité dans le massacre de 15 000 soldats et officiers polonais à Katyn en 1940.
L'aveu du Kremlin intervient exactement un demi-siècle après le massacre de Katyn. Il y a tout juste 50 ans, en effet, que l'armée rouge a éliminé quelques 15 000 officiers et soldats polonais dans une forêt de Biélorussie près de Smolensk. L'Union soviétique exprime son profond regret pour ce qui représente l'un des plus graves crimes du stalinisme, indique le communiqué officiel de l'agence TASS, qui confirme que le chef de la police secrète de Staline, Beria, et ses subordonnés sont bien les responsables directs des atrocités commises en avril-mai 1940. Le communiqué s'appuie sur les archives récemment retrouvées, entre guillemets, du NKVD. Moscou, Ulysse Gosset, France Inter.
Et c'était en 1990, donc 50 ans après le massacre de Katyn, Moscou reconnaissant sa responsabilité dans ce crime de guerre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on découvre qu'en dehors de Katyn, il y avait d'autres charniers et que le total des morts n'est pas de 15 000, mais de plus de 25 000, Alexandra.
Absolument. Gâteau. Mais cinq minutes après la décision politique du Kremlin de reconnaître la culpabilité, on dévoile, on n'a même pas cherché, on dévoile, et c'est la magistrature militaire soviétique et polonaise ensemble qui font un très bon travail et qui vont immédiatement, et des exhumations ont lieu pendant toute la première moitié des années 90, où on découvre effectivement tout le reste. 3% des autres charniers, parce que tout simplement, entre-temps, l'Union soviétique et le NKVD ont construit des aires de loisirs, des dachas, etc. Donc, des aéroports, on ne peut pas défaire. Mais en tout cas, on le trouve. Mais je tiens à rendre hommage à Boris Yeltsin, qui non seulement qui va plus loin que l'aveu de Gorbatchev, c'est Yeltsin qui donne aux Polonais l'ordre de Staline, le fameux ordre de Staline, et des documents qui donnent tous les détails possibles sur le crime de Katyn et des autres lieux de massacre.
Qui le donne à Lech Walesa, qui était à ce moment-là
absolument
président.
Absolument,
il y a justement les Polonais, Alexandra Viato, quand même, ils étaient au courant, personne, là non plus, n'a rien dit de ce crime.
Ah si, ce qu'il faut dire,
c'était
c'est
à cause
que...
du régime, c'était quoi?
Non, attendez, il y a Polonais et Polonais. D'abord, les Polonais de l'étranger ont écrit la vérité sur Katyn dès les années 40. Donc, nous avons...
À l'étranger, oui, parce
oui,
qu'ils
mais
pouvaient le faire.
J'ai vérifié, il y a même des traductions
parce
de ces livres, les dossiers de Katyn, qui
mais
sont
en
traduits en français. Mais en Pologne, c'était un risque pour la vie. Donc, tout le monde se taisait officiellement. Mais quand je suis partie en 1980 pour André Versailles pour écrire ce livre, faire mon enquête, j'ai constaté qu'il n'y avait pas un seul Polonais qui ignorait la vérité sur Katyn.
Cette vérité qui gêne encore les Soviétiques, même depuis 90, ils tentent de faire passer ce crime de Katyn pour une transgression des lois. Bref, de minimiser ce qui s'est passé alors que c'est une décision.
Ah oui, c'est carrément rigolo parce que au lieu de parler de crimes de guerre, on veut parler de crimes
de droit commun
commis. Alors je cite, justement, c'est une transgression des lois par des membres du parti décédés aujourd'hui. Donc c'est vraiment ridicule, et c'est pour ça que le tribunal de Strasbourg doit examiner l'affaire. Et là, Moscou commence à le prendre au sérieux.
Merci Alexandra Viato. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Katyn, la vérité sur un crime de guerre, publié aux éditions André Versailles. Vous êtes également l'auteur du livre Pologne, entre l'Est et l'Ouest, aux éditions Ora Decima. Vous avez pu entendre des extraits du film Katyn d'André Vaïda, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Ce DVD contient également des compléments dont nous avons diffusé des extraits et auxquels vous avez participé, Alexandra Viato. Vous avez également pu entendre un extrait des Archives de guerre de Marc Ferraud, disponible en DVD aux éditions Nouveau Monde INA, ainsi qu'une archive pâtée de 1939, issue du journal de votre année aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Céline Bonhomme et Dofar Guérit, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Annabelle Miaille et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, de l'Antiquité à nos jours, une histoire rarement racontée, une histoire de l'amitié.